بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Donc inshallah le sujet de cette modeste parole c'est ar-rahma fi l'islam, la miséricorde en islam. Mais avant de commencer, je voudrais expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet. J'ai choisi ce sujet car on a tous vécu des moments tragiques récemment, hein, suite à l'attaque injuste envers nos frères palestiniens. Et donc, cet événement douloureux pour nous et tragique, il a mis en lumière certaines choses. Et parmi les choses primordiales qu'il a mis en lumière, c'est la faiblesse de la communauté musulmane. Hein? Donc, notre faiblesse, quand je dis la communauté musulmane, c'est nous, c'est tout le monde, tous les pays, tous les États, et les populations, tous les peuples, donc la communauté musulmane. Donc ce genre d'événement, qu'est-ce qu'il a mis en lumière? Il a mis en lumière la faiblesse de la communauté musulmane. Et donc ça doit amener les musulmans à réfléchir. Et la première chose qui est importante à comprendre, c'est que la faiblesse que la communauté musulmane elle vit aujourd'hui, elle a été annoncée par le prophète. Il a annoncé le prophète, alayhi wassalam, les causes de cette faiblesse. Il a annoncé cette faiblesse et il a annoncé les remèdes, les moyens que les musulmans devaient mettre en œuvre pour sortir de cette faiblesse. Donc ce genre d'événement, il doit amener le musulman ni à être pessimiste ni à être optimiste, mais à regarder les choses à la lumière du Coran et de la Sunna, et ça doit l'amener à réfléchir. D'accord ? Et les textes sur ça, je ne vais pas les énumérer ici, mais ils sont nombreux. Hein, dans un hadith, le prophète, alayhi salam, il a parlé de l'wahen. Hein? Et en fait, dans ce hadith-là, il a annoncé qu'il viendra un temps où toutes les communautés, elles vont se jeter sur les musulmans. Et il y a même un compagnon qui va interpeller le prophète, il va dire, ya Rasulullah, c'est parce qu'on ne sera pas nombreux. Et il a dit, non, vous serez nombreux, comme l'écume de la mer. Il a dit, par contre, ce qu'il y a, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Allah, il va enlever des cœurs des non-musulmans la peur qu'ils avaient envers les musulmans. Car à l'époque du prophète, alayhi salam, le prophète, les kofars, ils avaient peur de lui à un mois de marche. Ils avaient peur des musulmans et de leur armée. Parce qu'ils étaient connus pour le courage. Hein? Or, dans ce hadith-là, le prophète nous dit qu'à l'époque où tous les gens vont se jeter contre les musulmans, Allah, cette peur que les non-musulmans avaient envers les musulmans, il va l'enlever. Et bien, ce n'est pas simplement ça qu'il va faire. Il va non seulement enlever la peur que dans le cœur des non-musulmans, et qu'est-ce qu'il va mettre dans le cœur des musulmans? Il va mettre l'wahem, la faiblesse. Et les gens, ils ont demandé au prophète, « Wama l'wahem ya Rasulullah ?» Ils lui ont dit, « C'est quoi cette faiblesse ?» Et le prophète, il va leur dire la faiblesse, « Hubbud dunya » Il leur a dit, cette faiblesse c'est quoi? C'est l'amour de ce bas monde et l'aversion, c'est-à-dire la peur de la mort. D'accord? Donc ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, cette faiblesse des musulmans, elle a été annoncée par le prophète. Et je dirais même que non seulement il y a la faiblesse des musulmans, mais il y a aussi le fait qu'on est humilié. Et le terme peut-être il est fort, mais c'est la réalité, on est humilié. Hein? On le voit bien dans la société, parfois il y a deux poids deux mesures. Si un tel d'une communauté il se fait insulter, ah, attention, il faut, c'est l'antisémitisme ou le racisme, mais si c'est le prophète qui est insulté, c'est la liberté d'expression. Hein? On voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Mais tout ça, mes chers frères, ça a été annoncé par le prophète, et les remèdes à ça, ils ont été démontrés par le prophète. Dans un autre hadith, le prophète, alayhi salam, il a parlé de cette humiliation. Hein? Il a dit, sallallahu alaykum zullan. Il a dit, Allah, il va vous envoyer une humiliation. Il a dit, il ne l'enlèvera que lorsque vous reviendrez vers votre religion. Donc, ici, on a le médicament, le remède pour sortir de situation. C'est quoi? C'est le retour vers la religion. Hein? Il y a même une célèbre parole de Omar ibn Khattab qui va dans ce sens, qui dit que les musulmans, Allah il leur a donné leur noblesse et leur force par la religion musulmane. Et donc quiconque cherchera parmi les musulmans à s'élever en utilisant un autre moyen que la religion, alors Allah, il va l'humilier. Hein? Et donc, on voit ici que le remède de tout ça, c'est le retour à la religion. Et comme vous savez, la religion, elle est articulée autour de 5 piliers. Et le pilier le plus important sur lequel est articulée toute la religion, c'est quoi? C'est le monothéisme. D'accord? C'est le monothéisme. Donc alors, on pourrait se poser la question, pourquoi avoir choisi le sujet sur la miséricorde, puisque je suis en train de dire que le sujet le plus important de la religion, c'est le monothéisme. Au point que certains savants ont dit, une prière, salat bidoun et tahara, une prière sans ablution, sans purification, qu'est-ce que c'est? C'est une prière qui est acceptée ou qui n'est pas acceptée? C'est une prière qui n'est pas acceptée. Et les savants, ils ont dit, l'adoration, toute l'adoration, salat, zakat, saum, tout, sans tawhid, sans le monothéisme, qu'est-ce que c'est? C'est une adoration qui ne sert à rien. D'accord? Donc on voit là l'importance de tawhid et du monothéisme en islam, de, qui est, comment dire, synthétisé dans la ilaha illallah. Hein? La ilaha illallah, c'est ça l'emblème du monothéisme en islam, mais c'est quelque chose qui est très important de comprendre. Alors si j'ai choisi moi la miséricorde, c'est pas que je dis qu'il ne faut pas parler du monothéisme, bien évidemment il faut parler du monothéisme, c'est un sujet que même lorsque on a étudié, qu'il faut sans arrêt étudier et sans arrêt réviser et sans arrêt essayer de le méditer, etc. Car c'est un sujet qui comporte beaucoup de bienfaits pour l'être humain et qui comporte beaucoup de richesses et qu'il faut sans arrêt le renouveler. Mais si j'ai choisi de parler de la miséricorde, c'est que le monothéisme, mes chers frères, il est lié à la miséricorde et que le monothéisme en islam, il est construit autour de la miséricorde. Alors, je pourrais donner plein d'éléments pour montrer le lien qu'il y a entre la miséricorde et le monothéisme, mais je vais en citer deux. Le premier, c'est que lorsqu'on fait la prière, à chaque rak'at, on récite surat al-Fatiha. D'accord? Et lorsque nous récitons surat al-Fatiha, il y a un verset dans lequel nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. D'accord? Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Et j'insiste bien sur la traduction, car il y a l'exclusivité. Hein? On n'a pas dit na'buduk, ya Allah. Qulna iyyaka na'budu bima'na na'budullah wa ma na'budu ma'allah ghayr Allah. Hein? C'est très important à comprendre. Donc iyyaka na'budu, il y a dedans le monothéisme. C'est à savoir, comme c'est traduit en français dans le Coran très justement, c'est toi seul que nous adorons. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit après Allah? Il dit wa iyyaka nasta'in. Et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Alors, je vous amène à méditer et réfléchir. On n'a pas dit c'est toi que nous adorons, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul que nous prions, ou c'est toi seul que nous jeûnons, pour qui nous jeûnons, ou c'est pour toi seul que nous invoquons, ou c'est toi seul que nous versons la zakat, etc., etc. Non, il a bien choisi Allah Azza wa Jal, et on sait qu'Allah, les paroles dans le Coran, pour celui qui a lu le livre de Tafsir, rien n'est laissé au hasard dans le Coran. D'accord ? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hein, l'isti'ana, le fait de demander le secours. Pourquoi ça a été choisi, le fait de demander le secours, qui lui aussi en fait est une adoration? Car Allah, il envoie un message fort dans ce verset. C'est un message qui est miséricordieux pour le croyant. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit en fait, si tu adores que Allah, alors c'est que lui que tu vas demander, c'est que de lui que dont tu vas demander le secours, et donc Allah, il va te secourir. Donc Allah, dans ce verset-là, il nous dit, si vous n'invoquez que moi, alors c'est quoi le résultat? Je vais vous secourir, je ne vais pas vous laisser tomber. Et je ne vous laisserai pas tomber, fil dunya ou fil akhira. Et je ne laisserai pas que les gens vous humilient. Et je ne laisserai pas que les gens bafouent vos droits. Donc regardez ici, le monothéisme, il est directement lié à quoi? À la miséricorde. À l'octroi par Allah de ses bienfaits. Hein? Donc là, est-ce que c'est clair le lien qu'il y a entre le tawhid et ar-rahma? Le deuxième point que j'ai choisi pour montrer le lien qu'il y a entre tawhid, donc le monothéisme, et ar-rahma, la miséricorde, c'est que si on regarde le principal point de désaccord qu'il y a eu entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa tribu Quraysh, c'était quoi le point de divergence? Est-ce que c'était l'existence en Allah? Est-ce que Quraysh, kuffar Quraysh, ikhtalfou ma'a an-nabi alayhi wa sallam ala wujoudillah? Est-ce que ça a été ça leur désaccord? Non, ça n'a pas été ça. Kuffar Quraysh, ils savaient qu'il y avait Allah. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ma na'abuduhum aslan illa liqaribuna ila Allah zulfa. Donc ils reconnaissaient l'existence d'Allah. Hein? Et même eux, lorsqu'on leur disait les idoles, pourquoi vous adorez les idoles? Les idoles, ça fait ni du bien ni du mal. Eux-mêmes, ils savaient ça. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula shufa'a'una 'inda Allah. Donc là, on voit bien dans ce verset, hein, ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire, ni leur être profitable, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc eux, ils disaient, nous en fait, les idoles, ils représentent simplement des gens pieux, de nos ancêtres, qui sont proches d'Allah, et comme nous on fait des péchés, on les faibles, nous on demande à eux, pour qu'eux, ils demandent à Allah. Et leur raisonnement, il est venu d'où? Il est venu d'un, ce qu'on appelle en arabe, un qiyas. Ils ont fait un qiyas, une analogie entre un roi. Imaginez un roi il a sa cour de rapprocher, mais les paysans qui sont tout au bout du pays, le roi il connaît pas leur situation. Donc si les paysans ils ont des difficultés et ils veulent interpeller le roi, eh ben, ils passent par quelqu'un qui est rapproché, hein, qui fait partie de la cour du roi, pour interpeller le roi. D'accord? Et eux c'est comme ça qu'ils ont raisonné le kuffar Quraysh. Ils ont dit donc nous, ils considéraient que le fait de prendre des intermédiaires c'était pas du shirk. Mais le prophète, il leur a dit non, c'est du shirk. Et pourquoi? Car le raisonnement, le qiyas, l'analogie que les kuffars, ils ont fait de dire c'est comme un roi, c'est mal connaître Allah. Car le roi, lui, il voit pas tout, il entend pas tout, mais Allah, azawajal, lui, il voit tout, il entend tout. Et là, on a le lien entre le tawhid et la miséricorde. Car Allah, de par sa miséricorde, tu es n'importe où sur la terre. Tu parles l'arabe ou tu ne parles pas l'arabe. Tu es vieux ou jeune, noir ou blanc, savant ou ignorant, si tu es sincère et tu lèves les mains et tu demandes à Allah, Allah il t'entend et il est capable, s'il le souhaite, de répondre à ton invocation. Eh, c'est pas une grande miséricorde ça, de la part d'Allah Azzawajal envers ses créatures? Donc là on a un lien immense qu'il y a entre la miséricorde et le monothéisme. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire en introduction, la faiblesse de la communauté musulmane, elle a été annoncée par le prophète. Le remède, il a été annoncé par le prophète. Comment fallait faire pour sortir de cette situation-là? C'était de revenir à la religion. Et revenir à la religion, c'est adorer Allah avec science. Et l'adorer sans rien lui associer. Et c'est aussi pratiquer la miséricorde. Car, je vais le démontrer ici, la miséricorde en islam, elle a un rôle prépondérant. Elle a une place très importante dans la religion, la miséricorde. D'accord? Preuve en est, Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, Allah il a des noms. Combien il a de noms Allah? Hein? Est-ce qu'il en a que 99? Il en a 99 qu'il nous a révélés, mais il y en a plus, seulement nous ne les connaissons pas. Mais nous, il nous en a révélé 99. Et parmi ces noms, il y a quel nom? Il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hein? Allah, il porte le nom de Ar-Rahman. Et d'ailleurs, le nom Ar-Rahman, il fait partie des noms qu'Allah ne peut pas partager avec quelqu'un d'autre. Ar-Rahim, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle du prophète, il a dit Raoufun Rahim. Mais il n'a pas dit Raoufun Rahman. Car Rahman, c'est un nom qui est réservé qu'à Allah, qu'il ne peut pas partager avec quelqu'un d'autre. D'accord? On n'a pas le droit d'appeler quelqu'un Rahman. Car il n'y a que Allah. Ar-Rahman, hu Allah. D'accord? Donc Ar-Rahman, le fait que ce soit un nom d'Allah, ça prouve l'importance de cette vertu et de cette qualité qu'est la miséricorde. D'accord? Aussi, j'ai cité Surat al-Fatiha tout à l'heure. Surat al-Fatiha, mes chers frères, c'est la sourate la plus importante du Coran. Hein? Dans un verset, Allah il dit وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Nous t'avons donné les sept que l'on répète et le Coran glorieux. Alors les sept que l'on répète, qu'est-ce que c'est? C'est Surat al-Fatiha. Hein? Certains savants, ils ont dit les sept que l'on répète, c'est les sept premières sourates du Coran. Ils ont dit c'est surat al-Baqara, surat Ali Imran, surat Nisa, surat al-Ma'ida, surat al-An'am, surat al-A'raf et surat al-Anfal. Ils ont dit c'est ça, sab al-matani, d'accord? Mais c'est un ijtihad de leur part. Et l'imam, le grand cheikh mauritanien qui vient de la ville de Changriti, hein, cheikh Mohamed Amin al-Changriti, qui a un tafsir al-Qur'an qui s'appelle Adwa al-Bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an, il a pris cette question-là, cette divergence des savants, et il a éclairci. Il a dit, donc ce livre qui s'appelle Adwa al-Bayan, qu'on pourrait traduire par lumière éclaircissante sur l'explication du Coran par le Coran, dans son livre-là, il a expliqué, il a dit, Sab' al-Mathani, si on veut savoir ce que ça veut dire, il faudrait qu'on regarde dans le Coran. Est-ce que dans le Coran, Allah il nous dit qu'est-ce que c'est Sab' al-Mathani. Et si on regarde dans le Coran, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien qui nous explique qu'est-ce que c'est Sab' al-Mathani. Donc après, vers quoi on va regarder? On va regarder dans les hadiths. Et il y a un hadith qui est rapporté par le Bukhari, dans lequel le prophète, il a pris la main d'un de ses compagnons, et il lui a dit, connais-tu la plus grande surah du Coran? Et le compagnon lui a dit, Allah et son messager sont plus savants. Et lui a dit, Hiya. Il lui a dit, Hiya, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa Hiya Sab' al-Mathani. Il a dit, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alameen, louange à Allah Seigneur de l'univers, et c'est les sept que l'on répète. Donc ici, dans ce hadith-là, c'est une preuve claire que Sab' al-Mathani, c'est les sept que l'on répète, et c'est Surat al-Fatiha. Et les savants qui ont dit que c'était les sept versets du Coran, c'est que simplement, à leur époque, ils n'avaient pas connaissance du hadith de Bukhari, donc ils ont fait un ijtihad, et eux, ils ont fait un ijtihad, ils se sont trompés, ils ont une récompense. Et s'ils avaient fait un ijtihad, ils avaient eu raison, ils auraient eu deux récompenses. D'accord? Mais nous, là, on a une preuve claire que Sab' al-Mathani, c'est quoi? C'est Surat al-Fatiha. Et donc, regardez dans ce verset-là, « Wa laqad atainaka sab' al-min al-Mathani wa al-Qur'an al-Azim » Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit, « Nous t'avons donné le Coran » et les sept que l'on répète, donc Surat al-Fatiha. Ben, Surat al-Fatiha, ça fait partie du Coran. Donc pourquoi il a séparé? Parce que c'est pour montrer la grandeur de Surat al-Fatiha. D'accord? Et Surat al-Fatiha, certains, ils ont été jusqu'à lui trouver, je crois, plus de 17 noms. Les savants, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ta'addud al-asma yadullu ala sharaf al-musamma. Ils ont dit, la multitude des noms, ça prouve la grandeur de la chose qui est appelée. Hein? Et parmi les noms de Surat al-Fatiha, il y a par exemple Umm al-Kitab. Pourquoi Umm al-Kitab? Parce que la mère, c'est elle qui est à l'origine de la création, et Surat al-Fatiha, elle est à l'origine du Coran dans le sens où elle détient tous les thèmes abordés par le Coran. Surat al-Fatiha, c'est un condensé de tous les termes, de tous les thèmes qui sont abordés par le Coran. Donc c'est pour ça que cette Surat, elle mérite surtout qu'on la récite à chaque prière que l'on fait. Le croyant a tout intérêt à étudier cette sourate et à méditer pour qu'à chaque fois qu'il prononce un verset, il se rend compte de ce que ça signifie. D'accord? Et donc, dans cette sourate-là, il y a un verset, pour revenir sur le sujet, dans lequel il est dit quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, regardez, j'ai dit cette sourate qui est la sourate la plus importante du Coran, qui est un condensé de tous les thèmes abordés par le Coran. Il y a un verset qui est réservé uniquement à quoi? Le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Et ici, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ces deux termes-là, mais ce que je dirais en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que Ar-Rahman, c'est une miséricorde plus intense et elle implique tout le monde, toute la création d'Allah, les musulmans, les non-musulmans, etc. Et Ar-Rahim, c'est une miséricorde mais moins intense que Ar-Rahman, et donc c'est une miséricorde qui est spécifique aux croyants. D'accord? Voilà ce qu'on pourrait dire pour synthétiser la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Donc regardez, un verset de Surat al-Fatiha, qui est la surat la plus importante du Coran, il est réservé au sujet de la miséricorde. Donc ça prouve que ce sujet de la miséricorde, le musulman, il a intérêt à bien le comprendre et à bien se rendre compte de son importance. Également, lorsqu'on lit le Coran, pour toutes les surates du Coran, sauf la 9e, qu'est-ce qu'on dit avant de commencer? Bismillahirrahmanirrahim. Hein? On commence et on dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et Allah, il a 99 noms qu'il nous a révélés. Pourquoi il a dit Allah et il a dit le tout miséricordieux? Il a encore rajouté le très miséricordieux. Il aurait très bien pu dire le très miséricordieux et le roi ou le sage ou le juste. Ou etc. Non, il a insisté deux fois sur la miséricorde. Donc ça prouve l'importance de la miséricorde dans l'islam. D'accord?
Donc voilà. Et une dernière chose aussi que je voudrais dire sur le choix du sujet de la miséricorde qui est très importante, c'est que nous, au jour d'aujourd'hui, en Occident, il y a une telle désinformation sur l'islam que l'islam, il a l'image de quoi? De tout le contraire de la miséricorde. Il a une image de religion dure, hein, de barbare, de terrorisme. Hein, si on va voir des non-musulmans, on leur dit l'islam et on leur demanderait à quoi ils pensent, ce serait des choses négatives. Hein. Donc, raison de plus de rétablir la vérité. Donc, après avoir expliqué l'importance de la miséricorde dans l'islam, ce qui serait intéressant de faire là, maintenant, ce serait de définir qu'est-ce que ça signifie la miséricorde. D'accord ? Et la miséricorde en islam, la miséricorde, je veux dire, dans la langue arabe, ar-rahma, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses. Hein, celui qui veut regarder un dictionnaire, il verra que ar-rahma, les synonymes qui sont donnés, c'est ar-riqa, al-atafa, al-maghfira. Hein? Et donc, les termes, les notions, la miséricorde, elle englobe beaucoup de notions. Parmi les notions, il y a bien sûr la notion de pardon, mais il y a aussi la notion de douceur, de tendresse, de bonté, de bienveillance, d'affection, d'indulgence, de sympathie, de compassion, du souci des autres. Il y a aussi la notion de pitié. Donc voilà, le mot miséricorde, c'est un mot qui est très très fort et qui englobe beaucoup de choses. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, je citerai un hadith du prophète rapidement. C'est un bédouin, il est venu voir le prophète, et il a trouvé le prophète qui était avec le Hussein sur son genou. Il était en train de jouer avec le Hussein, il était en train de l'embrasser. Et le bédouin, il est venu voir le prophète, étonné, il lui a dit « Moi, j'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé aucun. » Et le prophète, il lui a dit « Si Allah, il a enlevé la miséricorde qu'il y a dans ton cœur, alors moi, je pourrais pas la remettre. Hein » Donc regardez. Le prophète, le fait qu'il ait pris un enfant et qu'il ait joué avec lui et qu'il lui ait fait un bisou, il a appelé ça quoi? Il a appelé ça de la miséricorde. Et donc ça, on voit bien les termes que j'ai cités, de douceur, de tendresse, de bonté, de bienveillance, d'affection, etc. Ils sont dans ce geste prophétique. D'accord? Et maintenant, au niveau de la juridiction musulmane, au niveau du droit musulman, qu'est-ce que ça signifie la miséricorde? Alors, il y a deux définitions. Du point de vue de l'homme, la miséricorde, c'est quoi? C'est iradat isal al-khair. C'est la volonté que la personne est là, que les gens, le bien leur soit octroyé. D'accord? Qu'ils soient dans une bonne situation. Et lorsqu'on parle de la miséricorde en référence à Allah, cela signifie quoi? Cela signifie, fil istilah, isal al-manafi' wal-masalih ila al-abd. Et c'est une définition qui est donnée par Ibn Qayyim al-Jawziyya. Donc, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il explique le terme de la miséricorde du point de vue du droit musulman en disant que c'est l'octroi par Allah des bienfaits, hein, et des bonnes choses pour l'adorateur. D'accord? Et ici, l'abd, en réalité, c'est un sens qui est plus, ça implique la création. D'accord? Donc, cette miséricorde, du point de vue de l'être humain, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur de la personne et qui va le pousser à se comporter d'une certaine manière, à tenir certains types de propos et à faire un certain nombre d'actes, à se comporter avec les gens et son entourage avec douceur, compassion, tendresse, affection, etc., etc. Et ce sujet de la miséricorde, il est important pourquoi ? Parce qu'il amène beaucoup de bénéfices. La miséricorde, elle amène beaucoup de bénéfices dans la vie des êtres humains. Qu'est-ce qu'elle amène ? Elle amène d'abord l'amour entre les gens, la tranquillité, hein, la paix, et elle amène quoi aussi ? L'espoir. Parce que lorsque la personne, elle vit dans une société par exemple, et elle sait que les gens sont miséricordieux, si elle a des soucis, elle va espérer en la miséricorde des gens. Hein ? Et aussi le fait de savoir qu'Allah il est miséricordieux, ça pousse la personne à avoir de l'espoir. Il espère que bah, quand il est en difficulté ici dans ce bas monde, Allah il va le secourir, il va l'aider. Et il espère aussi que lorsqu'il va mourir, il va bénéficier de la miséricorde d'Allah, qu'Allah lui pardonnera ses péchés et qu'il entrera au paradis. D'accord ? Donc on voit que cette miséricorde, elle a beaucoup de bénéfices. Hein. Ça amène l'amour, la tranquillité, la paix et l'espoir. Et l'espoir, comme je l'ai dit, ça amène à espérer en Allah, espérer en son paradis, mais espérer aussi en cette dunya. Et ça amène aussi les gens à espérer les uns des autres. Parce que soit si tu vis dans un endroit et les gens ils sont miséricordieux, tu es dans une ville, les musulmans, mashallah, ils ont des bonnes sifats, ils sont miséricordieux. Le jour où tu as des difficultés, eh ben, tu seras apaisé. Tu sais que tu as une communauté de frères. Hein. Et d'ailleurs, on le voit dans les mosquées, lorsqu'il y a des gens qui sont nécessiteux et qu'on les aide, comment ils sont ces gens-là? Ils sont contents. Ils disent, Mashallah, Alhamdulillah, j'avais des difficultés, mes frères, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé. Et ils jouissent de cette miséricorde-là. Et qu'est-ce que ça les amène? Ça les amène à aimer les gens qui les ont aidés. Hein? Donc on voit bien que ça, cette miséricorde-là, c'est important. Pourquoi? Parce que ça amène la tranquillité, l'amour et l'espoir. Et ça permet aux gens de vivre mieux. Et c'est ce que l'islam souhaite. Donc voilà pour la définition de la miséricorde. Alors maintenant, si on regarde en ce qui concerne la miséricorde divine, il y a un verset qui est important, c'est dans lequel Allah, il dit « Wa huwa arhamur rahimin ». Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. D'accord ? Et je cite ce verset pourquoi ? Parce que je voudrais insister sur un point qui est important, c'est que quand on parle de la miséricorde que les musulmans doivent avoir, et on parle de la miséricorde d'Allah, mais attention, quand on parle de la miséricorde d'Allah, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. D'accord ? Et c'est une miséricorde qui en aucun cas n'est à comparer à la miséricorde avec les êtres humains, car la miséricorde des êtres humains, elle est limitée, d'accord, et la miséricorde d'Allah, elle est infinie et elle est parfaite, d'accord. Or l'être humain, il est imparfait, par conséquent sa miséricorde aussi, elle n'est pas parfaite. Allah nous dit clairement dans ce verset, wa huwa arhamur rahimin, il est le plus miséricordieux des miséricordieux, ce qui nous prouve à la fois que la miséricorde d'Allah, elle ne ressemble en rien à la miséricorde des êtres humains, et cela nous prouve aussi que les êtres humains, on peut dire qu'ils sont miséricordieux. D'accord ? De plus, Allah Azza wa Jal nous dit, ce qui va appuyer la deuxième chose que j'ai dit, « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Ma miséricorde englobe toute chose. Allah Azza wa Jal, sa miséricorde, elle englobe toute chose. Et Allah, lorsqu'il a créé les cieux et la terre et qu'il a créé tout l'univers, alors, sa création, elle témoigne de sa miséricorde. Et donc, celui qui médite sur la création de la terre, des cieux et de la terre, des êtres humains, etc., il verra apparente la miséricorde d'Allah. Déjà, ne serait-ce que nous, en tant qu'êtres humains, il nous a donné beaucoup de bienfaits. Il nous a donné la faculté de réfléchir, la faculté de parler, de voir, de se déplacer, etc. Pour se déplacer, qu'est-ce qu'il nous dit Allah ? Il nous a aplati la terre, hein, il nous a mis des bêtes pour qu'on puisse marcher. Il nous a créé avec des besoins. Mais il nous a aussi créé avec des besoins pour faire quoi ? Les besoins avec lesquels il nous a créé de quoi assouvir ses besoins. À titre d'exemple, il nous a créé avec le besoin de manger, et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tomber la pluie, il y a des fruits et des légumes qui sortent pour qu'on puisse manger. Hein ? Il nous a créé aussi avec un besoin spirituel, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé des livres et des prophètes. Hein ? Et c'est pour ça quand on dit « Rabbil Alamin », le murabbi dans la langue arabe, c'est celui qui fait croître et qui fait grandir, c'est celui qui éduque. Et donc Allah Azza wa Jalla, c'est ce qu'il a fait avec nous. Il nous a créés, il ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a donné tout ce qu'on avait besoin. Ça prouve la miséricorde d'Allah, tout ça. D'accord ? De plus, par exemple, Allah, dans un hadith, le prophète il nous dit que Allah, il n'y a pas une maladie qu'il a descendue sur terre sans qu'il ait mis son remède. Sauf la mort. Donc regardez, toutes les maladies qu'il y a sur la terre, en réalité, elles ont un remède dans la nature. Et celui qui connaît un peu la plante, la médecine à travers les plantes, il verra, wallahi, au jour d'aujourd'hui, on a beau, avec les pharmaciens, avec les laboratoires de recherche, faire des médicaments tout bizarres, mais qui en réalité, si tu lis la notice, il y a toujours des effets secondaires, alors que tu vas des fois dans des bleds en Afrique, etc., ils se soignent avec des plantes et ils font des choses étonnantes. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent les médicaments naturels. Hein ? Et ils n'utilisent pas des choses chimiques qui sont créées par l'homme. Car ce que Allah il a créé, c'est toujours mieux que ce que l'homme il crée. Pas ce que l'homme il crée, mais ce que l'homme il fait avec ses mains. Et de plus, Allah nous dit également, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Allah Azza wa Jal, il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. D'accord ? Et à titre d'exemple, alors on pourrait citer des tas d'exemples pour prouver la miséricorde d'Allah, à la fois que ce soit dans la douceur et dans le pardon, etc. Par exemple, dans un hadith dans lequel qui est rapporté par le Bukhari, il est rapporté l'histoire d'un homme, et il est dit dans le hadith, « Ma amala khayrun qat », il n'a fait aucun bien cette personne-là. Et cette personne-là, il est parti voir ses enfants quand il a senti que la mort elle approchait, et il leur a dit, « Quand je vais mourir, vous allez me prendre, vous allez me brûler, et mes cendres, vous allez les jeter dans la mer. » Et donc quand il est mort, ses enfants ils l'ont pris, ils l'ont brûlé, ils l'ont incinéré comme on dit, et ils ont jeté ses cendres dans la mer. Et Allah Azza wa Jal, il l'a fait ressusciter et lui a dit, pourquoi t'as fait ça? Il lui dit, car j'avais peur de ton châtiment. Et Allah l'a pardonné. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, regardez, ce hadith, il est riche d'enseignements. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a commis ce qu'on appelle du kufr al-akbar. Elle a commis une grande mécréance. Sa grande mécréance, elle a résidé dans quoi? Elle a résidé dans le fait qu'il a douté que Allah il pouvait le ressusciter. Hein? C'est lui qui, par exemple, qui dit, moi, je ne crois pas au jour du jugement dernier, Allah ne va pas me ressusciter. Ça, c'est du kufr. Hein? Et bien, cette personne-là, elle a commis du kufr al-akbar. Mais comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'était dû à son ignorance. Et donc, Allah l'a pardonné. Et il l'a récompensé. Pourquoi? Parce qu'il avait peur du châtiment d'Allah. Et voilà, Allah, il a fait preuve d'une énorme miséricorde envers cet homme, qu'il n'a fait aucun bien, il a rien fait. Hein? On pourrait citer aussi Hadith al-Bitaqa, quelqu'un qui va venir le jour du jugement dernier, il a fait aucun bien. Il avait un bien, c'est quoi? C'est qu'il disait la ilaha illallah. D'accord? Et donc on va dire, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai rien fait. Il va sortir, il y aura une carte où il y aura marqué la ilaha illallah, et pour ça il va rentrer au paradis. Et il y a aussi le récit de celui qui a tué 99 personnes. Il a tué 99 personnes. Il est parti se renseigner, il a vu quelqu'un qui faisait beaucoup la prière, mais qui n'avait pas d'ilm. Il lui a dit, moi j'ai tué 99 personnes, je vais me repentir, est-ce qu'Allah il peut me pardonner? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Allah il va jamais te pardonner, t'es fou, t'as tué 99 personnes. Il lui a dit, ah bon, il l'a tué. Et quand il est parti voir un savant, il lui a dit, mais bien sûr, qu'est-ce qui va empêcher Allah de te pardonner? Donc regardez la grande miséricorde d'Allah. Il y a aussi l'histoire de la prostituée, hein, avec une prostituée de Bani Israël, qui marchait dans le désert, elle avait soif, elle a trouvé un puits, elle a bu, et quand elle a fait demi-tour, elle a trouvé un chien qui avait soif. Et elle a dit, moi, il n'y a pas très longtemps, j'avais soif, je sais ce que c'est. Et donc elle a eu de la miséricorde pour ce chien-là, elle est partie, elle est descendue dans le puits, avec sa chaussure, elle lui a donné à boire, et pour ça, Allah lui a pardonné ses péchés. D'accord? Et aussi, en préparant ce cours, je suis tombé sur un article, et ça m'a interpellé. C'est un chercheur musulman qui a fait une recherche. Et il a dit, regardez, dans la succession, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a une preuve de la miséricorde d'Allah. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que si la personne, tu le mets, par exemple, il fait jour, et tu le prends, tu le mets directement dans un endroit où il fait nuit, et si tous les jours tu lui fais ça, c'est très très mauvais pour son organisme et même pour son psychisme. Hein? Il fait jour, même regarde-toi si par exemple, à un moment donné tu t'es endormi, il faisait jour et tu travailles, il fait nuit, t'es, comme on dit, t'es pas bien. Et donc il dit, regardez, si c'était tout le temps comme ça, le jour et la nuit, ça arrivait le changement se faisait de manière brusque, brutale, ce serait très mauvais pour l'organisme et l'horloge biologique. Mais Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que l'aube le matin, hein, quand il fait nuit et le jour il arrive, ça se fait progressivement et ça se fait en douceur, par miséricorde. Et aussi, quand il fait jour et la nuit arrive, ça se fait tout doucement, ça s'enveloppe tout doucement, hein. Ça, c'est une grande preuve de la miséricorde d'Allah. Alors maintenant, pour montrer encore, on pourrait bien sûr disserter pendant encore très très longtemps pour démontrer la grande miséricorde d'Allah. Ce n'est pas le but ici. Et donc maintenant, je vais parler du prophète et montrer que lui aussi, hein, et il est notre exemple, et il était très très miséricordieux. Et d'ailleurs, Allah, il nous dit à son sujet dans le Coran, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah nous dit dans le Coran, certes un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. D'accord. Donc regardez, Allah il a qualifié son prophète. Quels sont les attributs qu'il lui a donné? Des attributs de miséricorde, de douceur. Il est compatissant, il se soucie des autres. Et tout ça, comme j'ai vu, c'est des notions qui sont en lien avec la notion de miséricorde. Dans un autre verset, Allah il nous dit فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Hein, ce hadith, il est connu et il est important. Pourquoi? En français, donc, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux, que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Et ce verset-là, il est important. Pourquoi? Parce qu'il ramène un point qui est subtil à comprendre. C'est que, regardez ici, Allah Azza wa Jal, il nous explique les clés de la cause de la réussite du prophète dans le fait qu'il a fédéré beaucoup de gens autour de lui. Hein? On sait que le prophète, il est arrivé à la Mecque, il était tout seul, et que quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait beaucoup de musulmans. Qu'est-ce qui a été la cause de sa réussite? Bien évidemment Allah, mais Allah c'est le résultat. Mais qu'est-ce qui a été la cause? Est-ce que c'était le fait qu'il avait la vérité? Non, c'était le fait qu'il a été doux avec les gens. Car si même il détenait la vérité, le prophète, et il s'était comporté avec les gens de manière dure, alors les gens ne l'auraient pas écouté. Donc regardez ici, dans ce verset-là, Allah il nous dit que si le prophète il a réussi dans sa mission prophétique et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté, la principale cause c'est quoi? C'est qu'il s'est comporté de manière miséricordieuse envers les gens. Et c'est pas parce qu'il avait la vérité. Car s'il détenait la vérité, le prophète, et qu'il s'était comporté de manière dure envers les gens, qu'est-ce qu'il dit à Allah? Alors il se serait écarté de ton entourage. Il ne serait pas resté avec toi. Donc là, c'est une grande leçon pour nous. Et de plus, ce que je suis en train de dire, il va être encore appuyé par le verset que je vais citer après, que je vais citer maintenant, dans lequel Allah nous dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Hein, Allah il parle dans le Coran et il dit que le prophète, nous ne t'avons envoyé au Mohammed que en miséricorde pour les gens. Hein, et lui tu vas aller voir le tafsir, pourquoi, qu'est-ce qui, comment ils expliquent ça, le ulama, le mufassir, ils expliquent ça en disant que le prophète, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené le Coran pour nous guider. Hein, le Coran également, c'est comme on a dit, c'est quoi? C'est une guérison de ce qui se trouve dans les poitrines, et dans, comme maladie, dans les poitrines et dans le corps. Hein? Donc le prophète, il est venu que avec de la miséricorde. Il est venu pour montrer aux gens de ne pas adorer autre qu'Allah et d'adorer Allah. Car dans l'adoration d'autre qu'Allah, c'est la perdition. D'accord? Il est venu montrer comment il fallait vivre sur cette terre. Hein? Comment il fallait se comporter avec les autres. Donc tout ça, ce n'est que de la miséricorde. De plus, en ce qui concerne la personne du prophète, alayhi salam, pour celui qui étudierait sa biographie et comment il s'est comporté avec les autres, que ce soit avec ses femmes, avec les enfants, avec ses ennemis, il verra que le prophète alayhi salam débordait de miséricorde. D'ailleurs, il a rapporté que jamais il n'a tapé un enfant, jamais il n'a tapé une de ses femmes, qu'il était d'une grande douceur. Et il y a une célèbre parole de Anas ibn Malik qui dit Khadim tu Nabi alayhi salam ashra sinin. Il a dit il était au service du prophète pendant 10 ans. وَمَا قَالَ لِي أُفٍ قَتْ. Il a dit jamais il m'a dit ne serait-ce que ouf. Donc c'était son serviteur. D'accord? Il travaillait pour le prophète quotidiennement. Donc il était avec lui tous les jours pendant 10 ans. D'accord? Quand il se réveille jusqu'à ce qu'il va dormir. Et il a dit jamais il lui a dit ne serait-ce que أُفٍ قَتْ. Le mot le plus petit composé de 2 syllabes. Hein? وَفَا أُف. Et jamais. Et il poursuit dans le hadith en disant il ne m'a jamais dit pour une chose que j'avais fait, pourquoi t'as fait ça comme ça, ou pourquoi t'as pas fait ça. Et il ne m'a jamais dit pour une chose que j'avais délaissée, pourquoi t'as pas fait ça, ou pourquoi t'as fait ça comme ça, etc. etc. Donc regardez la grande patience du prophète avec son serviteur. Hein? Nous, au jour d'aujourd'hui, dès qu'on a quelqu'un à notre service, on est hautain, on lui parle mal. Hein? Bah, la main, va faire ça, pourquoi t'as pas fait ça, etc. etc. Alors, regardez le prophète. Mais en plus, c'est le prophète, il est envoyé par Allah. Et regardez comment il est humble. De même, pour prouver l'humanité du prophète, c'est que le prophète, comme vous savez, il a eu un enfant qui s'appelait Ibrahim, qui est décédé. Et lorsque cet enfant-là est décédé, le prophète, il a versé une larme. Et il y avait un compagnon, Ibn Aouf, qui était à côté de lui. Il a vu le prophète qui a versé une larme, il a été étonné. Et il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'arrive au prophète? Il a dit, inna rahma. Il a dit, c'est une miséricorde, ces larmes. Donc le fait que l'homme, il pleure, c'est une miséricorde. Mais j'ouvre une parenthèse en disant qu'en aucun cas ce hadith il doit être compris et doit être un argument pour ceux qui, lorsqu'il y a un décès, ils pleurent pendant 40 jours, ils s'arrachent les cheveux et ils prononcent des paroles qui sont des paroles pas autorisées par les gens. Pourquoi t'es parti? Pourquoi tu m'as fait ça? Mais il fallait pas partir. Pourquoi toi? Pourquoi c'est moi qui ai perdu mon fils et pas un tel? Etc. etc. En aucun cas, le hadith que j'ai cité doit être utilisé comme argument pour ce genre de comportement. D'ailleurs, dans la suite du hadith, le prophète, il dit « وَمَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبُّنَا ». Il a dit « Mais nous ne disons que ce que Allah agrée ». Donc le fait de pleurer, c'est autorisé. Il n'y a pas de mal à ça. Ça doit rester, la personne doit faire ça de manière sobre et pas sortir dans la rue et pleurer et hurler pendant 2 heures et qu'il perd, il devient presque mejnoun. Hein, c'est pas de ça dont il est question. Mais que la personne doit, malgré la tristesse qui est, qui est en islam, ici on voit dans le hadith qui est quelque chose de naturel, il doit quand même rester sobre et pas prononcer et dire n'importe quoi avec sa bouche. En ce qui concerne la miséricorde du prophète, également, on peut citer sa miséricorde avec les animaux. Et il y a beaucoup de récits. Hein. Il y a un récit avec un hadith qui est cité par Abdullah ibn Ja'far, radiallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète, alayhi wa sallam, il est rentré dans un jardin qui appartenait à un ansar, dans lequel il y avait un chameau. Et le chameau, quand il a vu le prophète, ce chameau-là, il s'est mis à pleurer, il a commencé à gémir. Et le prophète, il a été le voir, il lui a essuyé ses larmes. Et quand il lui a essuyé ses larmes, il a parlé au chameau, le chameau, il s'est tu. Et après, le prophète, il est parti voir les gens qui étaient dans le jardin, il a dit, à qui appartient ce chameau? Et un jeune homme de l'ansar, il est venu, il a dit, c'est à moi qu'il appartient. Il a dit, ne vas-tu pas craindre Allah dans ce chameau qu'Allah t'a donné, car il s'est plaint à moi que tu le maltraites et que tu le fatigues. Que tu ne lui donnes pas à manger, pardon. Que tu le laisses affamer, pardon, et que tu le fatigues. Et donc, regardez, subhanallah, le prophète, même d'un animal, je serais tenté de dire, vu la vision, nous, des fois, l'être humain qui l'a dit, non, un vulgaire animal, le prophète, il a pris sa défense et il a réprimandé sévèrement un de ses compagnons parce qu'il ne se comportait pas bien avec son chameau. Donc, regardez, subhanallah. Également, un jour, ils étaient en campagne, les compagnons avec le prophète, et ils se sont arrêtés dans un endroit. Le prophète, il est parti faire ses besoins. Et entre-temps, les compagnons, il y avait trois oiseaux, donc une mère avec deux de ses poussins. Et donc, en fait, ils ont pris les poussins. Et quand ils ont pris les poussins, le prophète Hassan, il est revenu et il a entendu la mère qui était en train d'hurler. Et le prophète, il s'est énervé. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez fait à cet oiseau? Et ils ont dit, non, on a juste pris ses poussins, les amis, là-bas. Il a dit, rendez-lui. Il n'a pas apprécié le prophète Hassan qu'on écarte cet oiseau de ses enfants. Également aussi, le prophète Hassan, un jour, il est venu, il a trouvé les compagnons qui étaient en train de mettre le feu à une fourmilière. Et il leur a dit, pourquoi vous faites ça? Nul n'a le droit de châtier par le feu, si ce n'est Allah. Mais, donc il leur a réprimandé l'utilisation du feu, mais il a aussi réprimandé le fait qu'il maltraitait la fourmilière. D'accord? Une vulgaire fourmi. Et le prophète, il s'est mis en colère. Donc regardez, subhanallah, comment le prophète, alayhi wa sallam, il était miséricordieux. Et pour ceux qui voudraient développer le sujet, je les engage à étudier la biographie du prophète. Maintenant, en ce qui concerne la religion musulmane. La religion musulmane, elle aussi, si on médite bien, il y a énormément d'éléments qui prouvent que la miséricorde, elle est très importante en islam. Déjà, le terme lui-même, islam. Islam, ce qui signifie la soumission, mais qui signifie aussi la paix. Car en fait, l'islam, c'est atteindre la paix, donc la paix intérieure, la paix dans la société, par la soumission à Allah. D'accord? Nous, on retient souvent, certains ils retiennent que la paix, et ils oublient la soumission qui est très importante, et certains ils retiennent que la soumission, et ils oublient que la finalité c'est quoi de se soumettre à Allah? C'est d'être en paix. Hein? Allah il t'a pas demandé de te soumettre à lui, uniquement pour t'embêter, ou pour te faire du mal, non, c'est pour ton bien, c'est car il t'a créé avec le besoin d'adoration, et donc tu as besoin de cette adoration, lui il n'en a pas besoin. Et si tu vis sans adorer Allah, tu ne trouveras jamais la quiétude. Pour être quelqu'un d'apaisé et d'être en paix avec soi-même, tu as besoin de l'adoration d'Allah, donc tu as besoin de la soumission. Et donc l'islam, c'est atteindre la paix par la soumission à Allah. Donc déjà, on voit que cette religion-là, les objectifs qu'elle vise pour l'être humain, c'est quoi? C'est son bonheur. Son bonheur, c'est de dunya wa fil akhira. De plus, la législation musulmane, lorsque les gens ils étudient le sharia al-islamia, comment elle est définie, la législation musulmane? Elle est définie en disant « Sharia islamia », elle est venue pour quoi? Elle est venue pour concrétiser les bienfaits et obtenir les bienfaits et repousser tout ce qui est mal. C'est ça les objectifs de la législation musulmane. Hein? « Sharia islamia »« Ja'at li tahsil tukmil al-masalih et tudafi al-mafasid » Donc on voit bien qu'aussi les objectifs de la législation musulmane sont des objectifs qui sont miséricordieux pour l'homme. Et d'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah, il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. De plus, Allah nous dit, wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Allah ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Hein? Et pourquoi il dit ça? Car dans la religion, on sait tous qu'il y a le halal et le haram, d'accord? Mais dans la religion, si une chose, elle t'est interdite, c'est qu'il y a une raison. Et je vais donner un exemple qui est simple, pour nous ici qui vivons en France. On sait tous que dans la religion musulmane, l'alcool et le tabac, c'est interdit. D'accord? Ben regardez aujourd'hui en France, allez, pour ceux qui ont internet, surfez sur le ministère de la Santé, et vous verrez qu'en 2006, il y a 63 000 personnes qui sont mortes à cause du tabac. Ce qui représente, en 2006, chaque jour de l'année 2006, il y a 175 personnes qui meurent à cause du tabac. Et dans les 175 personnes qui meurent du tabac, il y en a 9 qui meurent, ils n'ont jamais fumé. C'est ce qui s'appelle le tabagisme passif. Des enfants, leur père y fumait, ou etc., ou quelqu'un dans son travail était avec quelqu'un qui fumait. Donc, qui peut venir aujourd'hui et dire que dans l'interdiction du tabac, c'est dur, votre religion, vous n'avez pas le droit de fumer. Subhanallah, c'est pour ton bien. Il y en a 60 000 qui meurent en 2006. Et il y a eu tout un débat, etc. L'alcool, en 2006, il y en a 45 000 qui sont morts dû à l'alcool. Et à savoir que l'alcool, c'est encore plus difficile de... Ça, c'est des chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé. Mais en réalité, même sur le débat des chiffres, ça fait débat, parce que c'est très difficile à voir. Mais en gros, vous allez voir les médecins dans les hôpitaux, s'il est honnête, il vous dira qu'en France, s'il n'y a plus personne qui boit de l'alcool et plus personne qui fume, les hôpitaux, ils sont au chômage. Hein. Parce que toutes les maladies, de manière directe ou indirecte, c'est lié au tabac et à l'alcool. Hein, si demain, au jour d'aujourd'hui en France, plus personne fume, plus personne boit, les hôpitaux, on peut presque aller tous les fermer. Alors, subhanallah, c'est une preuve claire, comme de l'eau de roche, que dans la religion musulmane, les choses qu'ils te sont interdites, c'est pas pour t'embêter, mais c'est parce qu'il y a une sage raison derrière. Et c'est quoi qui est visé derrière? C'est le bien de l'être humain et le bien de la personne. D'accord? Donc on voit ici, dans la religion, que tout ce qui est interdit, même des fois si la personne ne voit pas la sagesse, il y a une sagesse qui est derrière. Et les choses ne sont pas interdites juste pour être interdites comme ça. Moi je me rappelle un jour, quand j'étais dans le désert, et un petit garçon, il est parti faire pipi dans une flaque d'eau. Et il y a un vieux monsieur, il lui a dit, faut pas faire pipi ici. Haram. Et moi, je connaissais pas. Je dis, pourquoi il est haram, lui? Et je lui ai posé la question. Il m'a dit, si, c'est haram, on n'a pas le droit. Et après, je lui ai demandé des explications. Il m'a dit, parce que le prophète, il a interdit. Il n'a pas su me donner des explications. Et un jour, je suis tombé sur un livre et j'ai eu l'explication. Et l'explication, pourquoi? Pourquoi c'est interdit de faire d'uriner dans une flaque d'eau qui stagne? Parce que cette flaque d'eau qui stagne, toi, si tu urines dedans, si un animal il vient derrière, il ne peut pas boire. D'accord? Tu as le droit d'uriner dans un endroit où l'eau il est en mouvement, parce que l'urine que tu vas laisser, elle ne va pas rester. Alors que s'il y a une flaque d'eau, si un chien il vient, il sent qu'il y a de l'urine, il ne va pas boire. Alors que si le chien il a soif, il voit une flaque d'eau et elles sont bonnes, il va la boire. Donc par miséricorde, pour celui qui pourrait venir derrière toi et utiliser la flaque d'eau, tu n'as pas le droit d'uriner dans un endroit où l'eau elle stagne. Et voilà, il y a encore une interdiction qui prouve que qu'est-ce qui est visé par cette interdiction-là, c'est quoi? C'est une miséricorde. D'accord? Également, je vais citer un autre exemple. Regardez, dans la législation musulmane, tout est comme ça. Regardez, quand on fait les ablutions, hein, dans le Coran, il y a un verset dans Surat al-Ma'idah dans lequel Allah il parle des ablutions, et il emploie deux verbes. Ya ayyuhal ladhina amanu idha kuntum ila salat farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum. Hein, il a dit farsilu pour les mains, le visage, etc. Mais il a employé le verbe wa amsahu, hein, le fait d'essuyer pour la tête. D'accord? Et pourquoi? Ben vous imaginez, vous, si 5 fois par jour quelqu'un aura une grande chevelure, il est, je ne sais pas, en voyage quelque part, il fait froid dehors, il est obligé de faire l'eau d'eau, il est obligé de se laver les cheveux, il ne peut pas s'essuyer, mais ce serait invivable. Et dès qu'il ferait froid, dès que ce sera en hiver et que quelqu'un est un peu éloigné, il va tomber malade. Et Allah Azza wa Jal, pour se purifier, qu'est-ce qu'il a dit? Il est simplement, il suffit simplement de mettre un petit peu d'eau et d'essuyer comme ça et de revenir, et alhamdulillah, c'est suffisant. Voilà une preuve, hein. Nous, peut-être qu'on fait les ablutions tous les jours, on ne s'en rend pas compte, mais voilà une preuve de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et que la religion musulmane, elle est articulée autour de la miséricorde. Une autre preuve encore qui prouve la... Il reste encore un peu de temps, hein? Donc un autre argument qui prouve la miséricorde en islam, un verset dans lequel Allah nous dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et d'ailleurs, il y a une règle, c'est le fiqh, hein, dans le droit musulman, qui dit que, en islam, l'obligation, les choses qui sont obligatoires dans la religion, elles sont liées à la capacité de la personne. Je vais vous donner un exemple. Le ramadan, c'est une obligation. Mais si la personne, elle est en voyage, donc temporairement, le fait de jeûner, ça va lui nuire. Ou alors, elle a une maladie, elle a un diabète. Par exemple, moi, dans ma famille, il y a un membre de ma famille, il a un diabète, mais très élevé, et donc il ne peut jamais jeûner. Alors lui, il n'est plus obligatoire de jeûner, car il n'en a pas la capacité. D'accord ? Donc, regardez, ça, c'est une règle vraiment très miséricordieuse. Hein ? Et ça, c'est une règle dans la religion. Et même celui qui a une maladie, s'il jeûne, il va se rendre encore plus malade, lui, il lui est interdit de jeûner. D'accord ? Ça, c'est des choses qui sont connues. Ça prouve quoi ? Ça prouve la grande miséricorde de l'islam. Regardez même, par exemple, le fait de prier debout pour les prières obligatoires, comme Al-Fajr, Dhuhr, etc. C'est obligatoire. Mais si la personne, le fait de se mettre debout, elle ne peut pas, temporairement, ou elle a l'incapacité, alors il lui est permis de prier assis. D'accord ? Donc, une des règles de la législation musulmane, c'est quoi ? C'est que l'obligation est liée à la capacité. Car Allah, il ne veut pas imposer quelque chose à une personne quand elle n'a pas la capacité de le faire. Pourquoi ? Car Allah est miséricordieux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le récit où des compagnons, ils étaient en voyage, et il y en a un, il s'était blessé à la tête, et donc ils sont partis, il a voulu faire les ablutions, lui il voulait faire juste tayammum, mais les gens lui ont dit non, tu dois faire l'ordo, t'es fou quoi, fais l'ordo. Et il a fait l'ordo, il est mort. Et quand ils sont venus, ils ont raconté ça au prophète, le prophète il s'est énervé. Pourquoi ? Parce que les gens, par leur ignorance, ils n'avaient pas compris que dans l'islam, Allah il cherche pas à faire souffrir les gens. D'accord ? Et regardez, le prophète, il s'est énervé et il leur a dit, c'est vous qui l'avez tué. Il a été dur. Et donc, c'est pour ça que nous aussi, c'est important qu'on comprenne cet aspect de la religion. Une autre chose qui prouve la grande miséricorde dans la religion musulmane, c'est quoi ? C'est que la religion musulmane, elle aborde tous les aspects de la vie. La politique, l'économie, le mariage, le divorce, l'héritage, même aller aux toilettes, eh ben on t'a dit comment il fallait faire. On t'a montré le comportement à adopter lorsque tu vas aller aux toilettes. Ça, c'est une grande miséricorde. Hein ? C'est une grande miséricorde que Allah, il a fait en sorte que sur chaque question que l'être humain peut se poser dans sa vie, il va en trouver une réponse dans la religion. Donc, en ce qui concerne la miséricorde, on vient d'aborder la miséricorde du point de vue d'Allah, Azza wa Jal, et on a démontré qu'il était miséricordieux. On a démontré aussi que le prophète, Aïssa wa Salam, il était miséricordieux. On a démontré aussi que la religion musulmane, elle était articulée autour de la miséricorde. On a démontré aussi que le pilier principal de la religion musulmane, le tawhid, il était articulé autour de la miséricorde. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à nous dire ? Ça nous amène à nous dire que nous aussi, alors, il faut qu'on essaye d'acquérir cette miséricorde. Et pour acquérir cette miséricorde, ça passe par étudier la religion, étudier la vie du prophète, se renseigner sur comment ils étaient, se renseigner sur la religion, etc. Méditer ces choses-là et essayer de les mettre en pratique. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, le prophète Aïssatou Assalam, il a un hadith. Il a un hadith sur sur la miséricorde entre les musulmans. Il dit Mathalu al-mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalu al-jasad. Idha ishtaka minhu 'adhu tada'a lahu sa'il al-jasad bis-sahri wal-humma. Le prophète nous dit l'exemple des croyants dans l'affection, la compassion et la miséricorde qu'ils ont les uns envers les autres est comparable au corps. Si l'un de ses membres souffre, le reste du corps s'y associe dans la veille et la fièvre. Donc ici, on a un hadith dans lequel le prophète nous a résumé la situation. Les musulmans, dans la miséricorde qu'ils doivent faire preuve les uns les autres, c'est comme si c'était ton corps à toi. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis devant vous, et ben, je souffre parce que j'ai un bouton de fièvre dans le nez. J'avais jamais eu ça. Et ben, Allah al-Azim, juste mon nez là, et ben, ça me casse la tête. Je dors mal, je suis pas bien, etc. Donc, juste mon nez. Ma main, elle a rien. Ma tête, elle a rien. Et ben, moi, tout entier, à cause de mon nez, je suis pas bien. Et des fois, ça nous arrive. Par exemple, quelqu'un, des fois, il a juste mal à la dent et tu le vois, tu te dis, subhanallah, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Et il a juste mal aux dents. Pourquoi? Parce que le fait qu'il ait juste mal aux dents, et ben, ça lui fait souffrir tout le reste du corps. D'accord? Et ben, nous, il faut qu'on soit comme ça entre les musulmans. Donc, par exemple, si on voit des musulmans qui n'ont pas très bien compris la religion, on ne sait pas, on doit rigoler et se moquer. Ben, ils n'ont rien compris, c'est des ignorants. Non. On doit tout mettre en œuvre pour essayer de les ramener vers la vérité. Et donc, les musulmans aujourd'hui, par exemple, qui sont divisés, etc., personne ne doit se contenter de cette division. Et dire, oh, ils n'ont rien compris, c'est des égards, etc., et de les prendre d'eau. Non, celui qui fait ça, il n'a rien compris. Au contraire, ce que nous devons faire, c'est de travailler à ramener les gens. Pas les ramener juste pour les ramener, mais ramener les gens sur la vérité. Par le bon comportement, par sagesse, et en patientant, parce que bien évidemment, ces choses-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'accord? Et les gens, ils doivent essayer de s'unir. Et ça, c'est très important dans l'islam. Il ne doit pas y avoir de différence entre les Noirs et les Blancs, les Marocains et les Algériens, ou les Tunisiens et les Égyptiens, ou je ne sais pas quoi encore, ou alors les jeunes et les vieux, ou alors les francophones et les arabophones, parce que Shaitan, lui, il travaille 24 heures sur 24. Donc les causes pour diviser les musulmans, lui, il en a tout un stock. Hein? Donc nous, il faut qu'on soit éveillés, mes chers frères, il faut qu'on fasse très attention à cette chose-là. Le fait de travailler à être unis. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, la faiblesse des musulmans, d'accord, elle est due à quoi? Elle est due au fait qu'on s'est éloigné de la religion, qu'on s'est éloigné certainement du tawhid, et qu'on s'est éloigné aussi de cette miséricorde. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète, il dit dans un hadith, « Men la yarham, la yurham ». Celui qui ne fait pas miséricorde, alors il ne lui sera pas fait miséricorde. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, qu'on écoute et qu'on se dit ouais, la miséricorde c'est bien et on part, on oublie tout. Non, c'est très important, la miséricorde. Maintenant, pour terminer, je voudrais citer, je l'ai gardé pour la fin parce que nous on vit en France et donc c'est un contexte particulier, et la personne elle doit prendre en compte la situation des musulmans, ça fait partie du fiqh din. Donc nous qui vivons en France, il y a une question qui vient: est-ce que cette miséricorde dont j'ai parlé, les non-musulmans, ils doivent en bénéficier ou pas? C'est une question qu'on pourrait se poser. Peut-être certains, la réponse pour eux, elle leur est évidente. Mais moi, je sais par expérience que beaucoup de nos frères, hélas, ils n'ont pas compris cet aspect des choses. À titre d'exemple, je me rappelle un jour, il y avait quelqu'un, il était venu. Et donc, il annonçait que tu avais des frères qui faisaient une collecte pour une association qui n'est pas une association musulmane. Donc, les frères, ils récoltaient de la nourriture qui donnait à une association qui aidait les pauvres. Ils aidaient les pauvres, il y avait des pauvres musulmans, des pauvres pas musulmans. Et un frère, il est venu, il a dit, vous faites ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc ça prouve que la question que je suis en train de poser, le frère pensait qu'on avait un musulman, il n'avait pas le droit de donner à manger à des pauvres sous prétexte que tu ne savais pas si ces pauvres-là, ils allaient être musulmans ou pas musulmans. Donc ça prouve que cette question, la question que je vais, à laquelle je vais répondre maintenant, c'est une question importante. Alors, Allah dans le Coran, il nous dit: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ الْجُنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Donc Allah nous dit: adorez Allah et ne lui donnez pas des associés. Et donc là, on voit encore quoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'importance du monothéisme, tawhid. وَاعْبُدُوا اللَّهَ. Et il ne t'a pas dit juste adore Allah et ikhlas. Là, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Entre l'adoration d'Allah et le fait de ne pas être un polythéiste, de rejeter le polythéisme et de n'adorer qu'Allah. Hein? Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Et agis avec bonté envers les parents, tes parents, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur. Et donc là, dans ce verset-là, Allah il a cité le voisin. Mais est-ce qu'il a dit, est-ce que c'est un voisin musulman ou pas? Non. Donc c'est ton voisin, tu dois bien te comporter envers lui. D'accord? Et je vous renvoie, pour celui qui voudrait chercher et qui cherche dans les livres, d'aller voir le tafsir de cette ayat-là, dans par exemple tafsir Ibn Kathir, et d'aller voir dans tafsir Al-Qurtubi. Et vous verrez que tous les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Que ce verset-là, le fait que Allah, il n'ait pas précisé le fait que ce soit des musulmans, c'était fait exprès. Pour justement dire que ton voisin, qu'il soit musulman ou pas musulman, tu dois être bon envers lui. D'accord? Le voyageur qui est égaré, qu'il est musulman ou pas musulman, tu dois être bon envers lui. D'accord? Et d'ailleurs, à ce propos, par exemple, il est connu que certains compagnons, lorsqu'ils habitaient Médine, ils avaient des voisins qui étaient juifs, et lorsqu'il égorgeait une bête, il demandait à sa famille, est-ce que vous en avez donné pour mon voisin juif? Et sa famille, ils ont été étonnés, ils ont dit non, pourquoi? Ils ont dit parce que j'ai entendu le prophète dire que Jibril, alayhi salatu wassalam, il avait tellement recommandé d'avoir de la bienveillance, d'user de bienveillance envers le voisin, qu'il a cru le prophète que Jibril allait lui demander de le faire hériter, de lui accorder une part de l'héritage. Et donc il a dit donc, allez donner une part de la viande à mon voisin juif. Un autre récit par exemple. Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il était calife, un juif lui a volé son armure. Un juif lui a volé son armure. Il est parti se plaindre au qadi des musulmans. Et le juge musulman, il a dit, comme Ali, il avait fourni deux témoins, mais dans les deux témoins, il y avait son fils Al-Hassan, alors, il a dit, je ne pouvais pas accepter ce témoin. Donc, il n'y avait qu'un témoin. Il a dit, même si je savais, j'étais sûr que ce juif, il avait vraiment volé l'armure, je n'ai pas prononcé la sentence. Je ne lui ai pas dit qu'on lui coupe la main. Et le juif, il était tellement sûr qu'il allait être condamné, quand il a vu que les musulmans, ils sont restés justes et droits avec le calife, malgré que c'était le calife, que le juif, il n'a pas voulu appliquer la sentence, qu'est-ce qu'il a fait le juif? Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai volé l'armure, et il s'est converti à l'islam. Allahu Akbar. Donc regardez, subhanallah, comment les musulmans de cette époque, eux qui avaient vraiment compris l'islam, ils se comportaient avec des non-musulmans lorsqu'ils étaient en état de force. Parce que lui, il était dans un état musulman, et à l'époque, les musulmans, ils étaient puissants. Hein? Et pour celui qui... l'argument que je viens de citer ne suffirait pas, je lui rappellerai un hadith qui est un hadith qui, dans les écoles, notamment en Inde, au Pakistan, etc., c'est un des hadiths dans les écoles de hadith qui est le premier hadith que les gens enseignent. C'est un hadith dans lequel le prophète, alayhi salam, il dit « Irhamu men fil ard, yarhamukum men fil sama. » Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre et celui qui est au-dessus des cieux sera miséricordieux envers vous. Donc regardez, subhanallah, que voulez-vous d'autre? Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre. Donc sur la terre s'y trouvent des musulmans, des non-musulmans, des animaux. D'accord? Donc là, il est clairement établi que la miséricorde, bien évidemment, elle doit se voir entre nous, mais elle doit aussi se voir dans le comportement du musulman envers les non-musulmans. Et pour aller encore plus loin, il y a un verset du Coran dans lequel Allah dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Allah dit, le bien n'est pas l'égal du mal. Le bien n'est pas l'égal du mal. Repousse le mal par le bien et tu verras celui avec qui tu as une animosité devenir tel un ami chaleureux. Donc regardez ici, la miséricorde et la douceur, elle est ordonnée même à celui qui a la haine contre toi. Subhanallah. Hein, même celui et tu verras celui avec qui tu as une animosité devenir tel un ami chaleureux. Donc nous aujourd'hui qui sommes musulmans et que bien évidemment l'islam il a une mauvaise image et que peut-être parfois les gens ils se moquent de nous parce qu'ils nous voient avec des habits bizarres ou la barbe ou etc. ou ils voient une femme voilée et qu'ils vont avoir tendance à nous regarder comme ça. Et il nous faut comprendre les choses. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Peut-être parfois il y en a, c'est vrai, ils ont la haine du musulman. Mais même, ça va être quoi le remède? Ça va être de le regarder méchamment? Qu'est-ce que ça va changer? Mais beaucoup d'entre eux, c'est parce que ce sont des gens ignorants. En France, on a beau être en France, c'est un pays civilisé, les gens sont ignorants. Les gens ne sont pas cultivés dans leur ensemble. D'accord? Est-ce qu'on leur sert comme prêt-à-penser idéologique à la télévision? Ils y adhèrent bêtement. Donc nous, à nous d'être intelligents et de ne pas... Lui, il pense que tu es un barbare primitif qui ne sait pas lire, hein? Eh bien, à toi de lui montrer le contraire, en te comportant de manière noble et en usant de belles paroles. Hein? Et regardez, mes chers frères, le prophète, alayhi salam, lorsqu'il était à Médine, les juifs, ils venaient le voir et ils lui disaient pas « salam alaykoum », ils lui disaient « salam alaykoum ». Ça veut dire que le poison, il soit sur toi, que la mort, elle soit sur toi. Subhanallah. Et le prophète, qu'est-ce qu'il disait ?« Wa alaykoum ». Et même regardez encore plus loin. Donc regardez le prophète, qu'a-t-il répondu? Il a répondu de manière sobre. Il ne s'est pas lui aussi mis à insulter, etc. Et un jour, Aïcha, radiallahu anha, qui était l'épouse du prophète, et qui était une femme jeune, elle a entendu les gens dire au prophète, salam alaykoum. Et elle est sortie, et elle s'est énervée, et elle a dit, vous les fils des cochons, etc. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Aïcha. Il lui a dit le prophète, oh Aïcha, il n'y a pas une chose dans laquelle il y a de la douceur sans que cette chose-là soit embellie. Et il n'y a pas une chose dans laquelle il manque de cette douceur sans que cette chose-là soit enlaidie. Regardez, subhanallah, voilà des choses qu'il faut méditer et qu'il faut essayer de comportements dont il faut s'imprégner. Et nous, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un pays, on est en minorité, d'accord ? Et les gens, ils ont une mauvaise image de nous. Donc, on a le devoir vis-à-vis d'Allah d'essayer de changer cette image. Alors, pour changer cette image, ça passe bien évidemment par des gens qui vont écrire des livres, par des gens qui vont faire des conférences, des cassettes, je ne sais pas. Mais ça passe avant tout par la communauté musulmane dans son ensemble, que chacun, il s'éduque et il adopte un bon comportement. D'accord? Et que chacun qui, lorsqu'il est dans la rue, il se dit, voilà, moi je représente ma religion, alors je dois avoir un bon comportement. Et même si parfois, peut-être quelqu'un, il va me dire une parole méchante, et que j'aimerais bien lui dire quelque chose, ou lui mettre moi aussi une droite, une gauche, je vais dire, habas, a'udhu billah. Moi, si je lui mets une droite, c'est toute la religion qui va être salie. D'accord? Et c'est tout l'islam qui va bénéficier d'une mauvaise image. Donc, à moi de me dire non, je patiente. Et le musulman, comme il dit Allah Azza wa Jal, quand il parle de ceux qui craignent Allah, hein, ceux qui ont taqwa, il dit « al-qadi min al-ghaid », ceux qui dominent leur rage. Hein? Et dites-vous, mes chers frères, que les gens, au jour d'aujourd'hui, sont dans un tel état d'ignorance, les musulmans, les non-musulmans, que... Celui qui réussit, c'est celui justement qui se distingue par la noblesse de son comportement et par la sagesse de son analyse. Et que si quelqu'un il te regarde et te fait comme ça, si tu lui fais comme ça, finalement t'es aussi bas que lui. Alors que si quelqu'un il te regarde méchamment, soit tu l'ignores ou tu lui fais un sourire, alors c'est toi qui es plus grand que lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم سبحان الله وبحمده بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك